Lengodoc 95 Punsink, Bey Semame Jérôme Riffet, directeur d'établissement de l'association Addiction France pour le département de l'Aude. Addicias ?
Addicias.
Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler notamment des résultats de l'enquête d'Addiction France en lien avec le BVA, portant sur les répercussions de la crise sanitaire sur les conduites addictives des Français. Ce qu'on pourrait se dire dans un premier temps, peut-être, c'est quel a été le constat pour démarrer cette enquête ?
Alors, c'est vrai que cette idée d'enquête est importante parce qu'elle nous a permis de mesurer en population générale avec les résultats du sondage qui viennent de sortir et auprès de nos usagers, nous aurons une deuxième vague de résultats à la mi-mai, quelles sont précisément les conséquences de ces confinements. Nous sommes au troisième que nous vivons depuis plus d'un an, sur les consommations en termes de produits, de substances psychoactives, mais également de consommation sans produits sur les Français. Alors, il apparaît qu'il y a eu des conséquences importantes sur la consommation, la surconsommation des produits, des substances psychoactives. En haut du podium, si je puis dire, figure la consommation d'écran, puisqu'on a constaté que 60% des Français avaient surconsommé des écrans, et notamment les plus jeunes, au travers d'activités ludiques principalement. On a tous consommé du temps d'écran à travers le télétravail, mais là on a plus pointé la problématique liée aux activités récréatives. C'est bien normal, il y avait moins d'école, il y avait plus de difficultés à faire les activités classiques d'un enfant, et les parents se sont également retrouvés en difficulté face à cette surconsommation des enfants, des jeunes, et ont eu du mal à la gérer. On peut bien l'imaginer.
Par difficulté pour les parents, on entend un peu de laisser aller ou
Dans un contexte de confinement où ils sont à la maison avec les enfants, où ils arrivent plus ou moins à suivre les activités scolaires, etc., etc. C'est tout nouveau pour des parents, être au domicile 5 jours sur 7 avec les enfants, essayer de gérer la scolarité. On travaille pas à la maison comme on travaille à l'école, c'est pas le même cadre, etc. Donc voilà, les conséquences ont été assez immédiates sur la surutilisation des écrans. Ça, c'est pour ce qu'on qualifie de substances sans produits. Après, il y a eu tous les produits. Alors, en tête viennent le tabac. Là, on a observé une surconsommation de l'ordre de 33% chez les fumeurs. Principalement, ce qu'on appelle les gros fumeurs, c'est-à-dire les fumeurs qui consomment plus de 10 cigarettes par jour. Il n'y a pas eu visiblement d'initiation au tabac, c'est-à-dire que les gens qui avaient arrêté ou qui ne fumaient pas ne se sont pas mis à fumer, mais c'est surtout les plus gros consommateurs qui ont été impactés. Ça veut dire aussi que les campagnes auxquelles nous participons, telles que le mois sans tabac et autres, qui ont depuis quelques années montré leurs fruits sur la baisse de consommation des Français, baisse de consommation de tabac. Mais l'impact de la crise sanitaire et des confinements est venu changer la donne, surtout chez les consommateurs importants. Voilà.
On parle aussi d'une hausse des produits médicamenteux,
oui,
notamment avec 33% pour les somnifères et anxiolytiques en termes de hausse, ouais, et puis aussi 26% pour les antidépresseurs.
Oui, je crois que ça vient témoigner de la souffrance psychique liée à ces confinements. Les Français étaient mal, si je puis dire, et ont consulté. Et quand on consulte et quand on est mal, quand on développe de la souffrance psychique, on a parfois des médicaments qui sont prescrits, des médicaments tels que des anxiolytiques pour faire baisser l'anxiété, des hypnotiques parce qu'on n'arrive pas à dormir, des antidépresseurs éventuellement. Donc cette consommation nouvelle pour près d'un Français sur 10 est à souligner, puisque si on peut imaginer que s'il n'y avait pas eu ce confinement, elle n'aurait pas eu lieu. Ce qu'on observe aussi, mais ça c'est valable évidemment pour toutes les surconsommations, c'est que les populations dites vulnérables ou précaires ou en fragilité, eh bien, évidemment, sont beaucoup plus impactées que les populations qui ne sont pas dans ce type de situation. Et donc, de fait, ça vient accentuer un peu cette problématique du confinement chez ces personnes. Des personnes, en gros, que nous recevons, c'est-à-dire des personnes qui ont éventuellement déjà eu une addiction. Donc, on aurait une lecture un peu plus fine de cet impact chez ces personnes fragiles et vulnérables lors des seconds résultats qui ont été faits auprès de nos usagers à travers l'enquête qu'on a terminée au mois de mars et qui sera découverte vers la mi-mai.
Avec toutes ces constatations, Addiction France, quelle est sa démarche pour aider ces personnes-là ?
Alors, nous sommes toujours présents à travers les 90 établissements présents sur le territoire qu'on appelle des XAPA, donc des centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. Pendant le confinement et pendant les crises sanitaires, on a ce qu'on a fait développer une continuité de service, c'est-à-dire qu'on n'a pas fermé, mais on a développé de nouvelles modalités d'accompagnement à travers des consultations téléphoniques, des téléconsultations. Donc nous sommes présents, mais on sait que pour les personnes, ça a été parfois difficile de faire la démarche pendant ces périodes de confinement. Parce qu'elles étaient éloignées ou parce que elles avaient des difficultés de déplacement. Donc on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de faire une démarche de soins vers nos établissements, mais que c'est difficile. Donc le fait de médiatiser cette enquête permet aussi de rappeler aux gens que quand on a un problème d'addiction, c'est pas la fin du monde, mais il faut être pris en charge, il faut être accompagné par des professionnels. Dans une structure spécialisée, c'est certainement mieux parce qu'il y a une dimension médicale, certes, mais il y a aussi une dimension sociale et psychologique qui est le fondement de la prise en charge et de l'accompagnement. Parce que ces problématiques d'addiction ne sont pas uniquement des problématiques médicales, mais elles viennent impacter toute la sphère globale de la personne, hein. Donc il faut donner une réponse adaptée et nos établissements le permettent.
Vous avez constaté peut-être une forte recrudescence des patients ?
Oui, bien évidemment, il y a de nouveaux usagers qui appellent, d'autres qu'on avait perdu de vue qui nous recontactent. C'est important de leur amener une réponse en termes d'accueil, en termes d'accompagnement, d'orientation si on n'a pas les compétences pour les suivre. Je pense parfois à des problèmes psychiatriques fort marqués où là on essaie de travailler en partenariat avec la filière de la psychiatrie, mais même si nous avons un temps psychiatrique au sein de notre établissement, c'est quand même important de pouvoir accueillir d'abord ces personnes-là, et on est tout à fait dans l'émission des XAPA. Mais c'est vrai que les périodes de confinement n'ont pas toujours permis, je le répète, aux personnes de faire cette démarche. Donc il faut qu'elles le fassent maintenant. On est à 12 mois de ce confinement. On sait que certaines vont mal. Donc c'est aussi le sens de cet appel à la radio, hein, pour que les gens se mobilisent et viennent nous rencontrer, viennent rencontrer des professionnels pour exprimer leurs difficultés par rapport à ces produits. C'est valable pour les personnes qui sont directement concernées, mais c'est aussi valable pour leur entourage.
À l'heure d'aujourd'hui, il y a toujours une certaine honte autour du mot addiction.
Et oui, on hérite un peu de représentations négatives sur la dépendance, sur toutes ces choses qui sont liées à la consommation ou à la surconsommation de produits. Donc il faut essayer de se défaire un peu de ces représentations négatives pour faire le pas. C'est pas évident, hein. Ce sont des représentations sociétales qui sont très fortes, et nous on est là aussi pour essayer de réduire ces représentations négatives en incitant les gens à prendre la mesure de leurs difficultés et à se dire qu'il n'y a pas de honte, il n'y a pas de culpabilité à venir parler de sa perte de contrôle de consommation d'un produit. C'est comme ça qu'on peut définir les addictions. Après tout, c'est que la personne consomme et n'arrive plus à contrôler la consommation de ce produit et donc consomme de manière excessive, ce qui peut mener à la dépendance au bout d'un certain temps, etc. etc. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de fatalisme. Quand on est accompagné, quand on est pris en charge, eh bien on peut relever le défi de baisser sa consommation, de mieux la contrôler, de la diminuer, voire de l'arrêter pour les gens qui le souhaitent aussi.
Eh bien écoutez, merci pour toutes ces explications. On va faire une petite pause musicale et puis on revient de suite après.
Avec plaisir.
Moi, je caresse ton visage sur mon écran tactile. Que reste-t-il de sauvage? Dis-moi, que reste-t-il? Ouais, je caresse ton visage sur mon écran tactile. Que reste-t-il du paysage? Dis-moi, que reste-t-il? Adieu vieux monde adoré, adieu vieux monde adoré, une image oubliée sur un bout de papier, un quoi, si punk, iroquois, crypto-chat, bikini turquoise, où suis-je sur la toile? Ah ouais, j'appelle à l'aide mais je ne sais ni qui ni pourquoi, bikini turquoise, ni qui ni pourquoi, bikini turquoise, où suis-je sur la toile? Ah ouais.
Dans les studios de Radio Lingodoc avec Jérôme Riffet, directeur de l'établissement Addiction France dans l'Aude. On parlait notamment d'addiction. La dépendance, qu'est-ce que c'est? C'est une question très vaste, mais on peut peut-être y répondre.
Oui, alors la dépendance, c'est une conséquence de l'addiction. C'est, je dirais, la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire que on voit souvent voilà, on caractérise souvent les addictions par la dépendance, mais il y a pas que ça, je dirais, hein. Mais c'est une manifestation soit physique, soit psychique d'une personne liée à un produit. Alors, on peut être dépendant de l'alcool, on peut être dépendant du tabac, du cannabis un petit peu moins, mais on peut l'être aussi, de l'héroïne, bien évidemment, etc. Et puis, on peut être aussi dépendant de comportements qui sont plus liés à la consommation de jeux. par exemple les jeux sur Internet, de pornographie sur les écrans, de sport, des addictions au travail, on en connaît, des addictions au sport, etc., etc. Donc la dépendance, eh bien c'est un phénomène physique, psychique, qui est pris en charge. Donc vous avez des sevrages physiques qui vont permettre aux personnes de se débarrasser du produit et de ne plus avoir des signes de manque physique quand elles ne le consomment pas, bien. Mais il y a aussi cette dépendance psychologique qui, elle, est à l'œuvre et qui va mettre beaucoup plus de temps à être prise en charge, accompagnée. Vous avez un comportement gestuel, pensez au fumeur avec sa cigarette entre les doigts, par quoi va-t-il pouvoir compenser cela, etc., etc. Donc c'est tout le travail qui va être fait par les usagers en lien avec les professionnels, avec des objectifs qu'ils vont définir ensemble pour essayer de surmonter ça. Par rapport, par exemple, à la dépendance à l'alcool, on va pouvoir proposer ce qu'on appelle des sevrages, soit des sevrages ambulatoires où la personne vient régulièrement dans la structure, soit des sevrages hospitaliers où la personne est dans un univers, je dirais, hospitalier, plus de protection, etc., etc. Et puis on va essayer de revoir la personne assez rapidement après ces phases de sevrage pour maintenir ce sevrage et pour éviter ce qu'on appelle la rechute, la récidive d'une consommation problématique, même si la rechute fait partie après tout du parcours thérapeutique. On essaie de la prévenir, mais si ça arrive, c'est pas dramatique. On remet en place un processus d'accompagnement, d'écoute empathique, etc., pour surmonter ça. Je le dis parce que souvent les personnes sont dans une dimension de sevrage, c'est très bien, elles ont réussi, tout le monde est content, et puis au bout d'un certain temps, il peut arriver que ça rechute, et là c'est le drame, etc. Il faut dédramatiser la rechute et se dire c'est un accident dans le parcours thérapeutique et que ça sera surmonté à nouveau.
Je pense que dédramatiser la rechute, c'est quand même un terme fort et important venant d'un professionnel. C'est quelque chose qui a été très dramatisé, très mentalisé aussi, et qui est pris comme un échec. Oui. Comment faire pour pas prendre cette étape-là comme un échec ?
Il faut la prévenir, c'est-à-dire qu'il faut déjà dire à la personne que, alors on ne va pas l'encourager à rechuter, bien évidemment, mais on va lui dire il est possible que dans votre parcours thérapeutique, pour X raisons, vous soyez amené à reconsommer un produit. On sait que pour les personnes dépendantes, le fait de reconsommer ne serait-ce qu'une fois, ça peut réenclencher le processus de la dépendance. Pensez au fumeur qui a arrêté même depuis 5-10 ans et qui, à la faveur d'une taf, de cigarettes, voit le processus de dépendance se réenclencher. L'organisme a une excellente mémoire de ce qui s'est passé antérieurement, et sur le plan neurophysiologique, ça se remet en place assez rapidement. Donc il faut en parler. Déjà, il faut en parler avec l'usager et puis lui dire que si jamais ça vous arrive, c'est pas dramatique, justement, faut pas avoir honte. Au contraire, il faut nous recontacter en nous disant j'ai eu un petit accro dans mon abstinence, et on essaie de retravailler ça le plus vite possible avec lui.
Vous constatez beaucoup de décrochage suite à des rechutes ou pas vraiment ?
J'ai pas vraiment les chiffres en tête, mais on parle parfois des trois tiers, c'est-à-dire que sur des gens qui sont dépendantes, il y a un tiers de personnes qui risquent de rechuter et pour lesquelles ça va se compliquer. Un tiers de personnes qui sont stabilisées durablement et un tiers qui, vont beaucoup mieux et ne retoucheront pas aux produits. Mais ça, ce sont des chiffres qui représentent pas forcément la réalité. Mais c'est pour vous donner une proportion. Il est bien évident que plus les gens sont vulnérables, plus les gens sont fragiles, plus les pratiques de consommation, de dépendance sont inscrites dans la durée, et plus ça risque d'être compliqué. Mais il n'y a pas non plus de choses insurmontables.
On parle de connivence entre addiction et fragilité. Quelle est vraiment cette relation ? C'est-à-dire qu'on palie une fragilité avec une addiction ?
Oui, ça peut être ça, oui. C'est-à-dire que voilà, le produit psychoactif a l'avantage de venir conforter un peu. C'est un anxiolytique. L'alcool est un mauvais anxiolytique. Le cannabis aussi, tous ces produits qui sont souvent pris en automédication. D'ailleurs, évidemment, l'alcool n'est pas prescrit, le cannabis non plus, les stupéfiants non plus, mais les gens ont fait une expérience avec, ils ont vu que ça les apaisait temporairement. Donc ils reprennent ce produit. Plus les raisons pour lesquelles les gens consomment ces produits psychoactifs sont d'ordre lié à une fragilité, à une vulnérabilité, et plus la dépendance va s'installer rapidement, si vous voulez. Pour une personne qui consomme ces produits de manière récréative, mais qui va, au demeurant, plutôt bien sur le plan psychique, il n'y aura pas le même phénomène qui mène à la dépendance. La dépendance se met très rapidement en place pour les gens qui sont dans la précarité, qui sont dans des situations psychiques de vulnérabilité, etc. etc. Donc on est très inégaux par rapport aux produits. Si vous voulez, les gens, mais ça c'est un peu une palissade, mais les gens qui sont en bonne santé, etc., sur le plan psychique, social, etc., la santé étant une définition assez globale, hein, c'est pas uniquement l'absence de pathologie, l'absence de maladie, eh bien ces gens-là vont, après tout, absorber plus facilement les contre-coups, je dirais, de produits psychoactifs. Ça ne veut pas dire qu'ils n'y sont pas vulnérables s'ils s'enfoncent dans des consommations excessives durablement. Mais voilà, on distingue quand même les usages récréatifs des usages excessifs et des usages de dépendance. Hein. Il faut mettre un peu de nuance dans tout ça pour essayer de bien repérer où en est la personne dans sa consommation et comment, surtout, on va réussir à l'aider et à l'accompagner avec elle.
Parlons maintenant plus amplement de l'association en elle-même, Addiction France. Quel est son but dans un premier temps? Bon, ça transparaît quand même dans l'appellation. Quels sont vos axes au final d'action?
Ben voilà, déjà on fait plein de choses. Alors cette association, elle va fêter ses 150 ans l'an prochain, en 2022, puisqu'elle a été créée en 1872 par deux éminentes personnalités qui sont Louis Pasteur, évidemment, que tout le monde connaît en ces périodes de vaccins, et Claude Bernard, qui était un médecin physiologiste à la fin du 19e siècle. Ils ont fait d'ailleurs tous les deux des travaux, c'est rigolo, sur la fermentation alcoolique, évidemment, pour voir quels étaient les agents pathogènes à l'origine de la fermentation, des bactéries, etc. etc. Et donc, 150 ans d'activité pour faire au tout début la défense contre le fléau de l'alcoolisme. Hein. À la fin du 19e siècle, c'était un peu cette doxa qui était à l'œuvre dans une situation de pré-industrialisation. Je vous renvoie à Germinal de Zola, etc. etc. Voilà. Et ensuite, on a abandonné cette terminologie autour du fléau et de l'alcoolisme. On a développé des centres d'hygiène alimentaire en alcoolologie, ça c'était au milieu du 20e siècle, dans les années 50, 60, 70, qui se sont transformés en centres de cure ambulatoire en alcoolologie pour devenir maintenant des XAPA, des centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. Donc cette dimension de l'addictologie qui est arrivée dans les années 90 avec un psychiatre qui s'appelle Goodman qui a défini un peu les concepts, a montré que finalement pour tous les produits, même pour les substances sans produit, eh bien, il y avait à peu près le même phénomène. Donc, on a déjà cette mission d'accompagner sur le plan médico-social des personnes qui sont en difficulté avec des comportements ou des conduites addictives. Ça, c'est plus sur le plan de l'activité de soins. Après, on développe des activités de prévention et de promotion de la santé auprès de tous les publics. Soit les publics scolaires, les publics vulnérables, le champ de l'entreprise, les publics en milieu festif, etc. etc. Voilà. Et puis on a aussi une vocation autour de la formation, c'est-à-dire qu'on forme également des professionnels ou des bénévoles à cette dimension des addictions, de l'addictologie. On travaille aussi sur les représentations, comme on l'évoquait tout à l'heure, hein. C'est-à-dire que pour essayer de changer les représentations des personnes sur les addictions, sur la dépendance, etc. Voilà, la formation. Et puis aussi, on développe un plaidoyer important pour faire valoir les recommandations de la haute santé, de la haute autorité en santé sur les consommations, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, etc., le gouvernement, on soutient des campagnes aussi, voilà. Donc on a aussi cette mission de plaidoyer en santé publique. On n'est pas des anti-alcool, des anti-produits, on reconnaît, voilà, les valeurs culturelles et qui sont liées à ces produits. On essaie de faire prendre conscience aux personnes et notamment à la population générale des risques qui peuvent être encourus par la consommation de ces produits. Voilà, après on travaille avec tout le monde. Les gens qui viennent sont encore en consommation, ont arrêté, surconsomment et autres. Voilà, on prend véritablement tout le monde, quoi.
Si on veut contacter votre association,
oui.
Que ce soit nous-mêmes ou un proche, peut-être, comment est-ce qu'on peut faire ?
Alors, pour le département de l'Aude, nous sommes présents à Narbonne, où se situe notre siège. Donc, nous sommes au 15 boulevard du Docteur Féroul. C'est en face des Halles, c'est assez facile à repérer. Avec un numéro de téléphone, puisque nous recevons principalement sur rendez-vous. Donc, il faut appeler le 04 68... 49 53 16. Donc là, vous serez accueilli au téléphone et puis vous expliquerez un peu quel est votre souci, quelle est votre problématique. Et on essaiera de vous fixer un rendez-vous assez rapidement pour rencontrer un professionnel et pour débuter ce qui va s'apparenter à une démarche thérapeutique. Voilà. Donc au sein de notre établissement, il y a des médecins, il y a des infirmières, un travailleur social, une psychologue, etc. Voilà. Donc il y a des professionnels dont le métier est d'accueillir, de recevoir des personnes, de les écouter, de travailler avec eux et de cheminer, je dirais, sur cette voie thérapeutique.
On va retenir surtout le mot cheminement, qui est un beau mot avec une belle étymologie. Est-ce que vous auriez quelque chose à dire en dernier mot pour nos auditeurs ?
Écoutez, je leur souhaite de vivre au mieux ce confinement qui nous touche tous, et en souhaitant qu'on en soit débarrassé au plus vite, en sachant aussi que voilà, nous on a aussi mission de santé publique, donc on prône quand même le fait que les gens fassent tout ce qui est possible de faire pour que cette épidémie soit arrêtée et qu'on puisse mieux vivre. Donc là, je pense notamment à la vaccination, hein. C'est-à-dire que nous on ne la pratique pas dans notre établissement, mais on la soutient puisque c'est important. On la soutient auprès évidemment de nos professionnels, mais auprès de nos usagers, parce qu'il nous semble que c'est important que les gens puissent se vacciner pour qu'on puisse se débarrasser enfin de ce virus.
Et passer à autre chose. Même sur le plan mental, au final.
Aussi, et oui.
Mais écoutez, merci beaucoup pour cette interview et de nous avoir donné de votre temps.
Merci de m'avoir accueilli, Adicias.